Eh bien, dimanche passé, j'étais heureux de revoir notre sœur Marielle. Aujourd'hui, je suis heureux de revoir notre sœur Georgette. C'est formidable. Dieu est bon. Le message d'aujourd'hui. Okay. Je dois dire, m'a été inspiré par un frère à Paris. Donc, lorsque j'étais allé il y a 3 semaines à Paris. Et c'était donc le dimanche de Pâques. Et le frère avait apprécié le message. Il avait dit, j'étais bien content du message, mais j'aimerais aussi apprendre sur l'ascension. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai. En ce qui me concerne personnellement, j'ai déjà prêché sur le sens de Pâques, le sens de la Pentecôte, mais au milieu, l'ascension, c'est un point que je n'ai pas abordé. Et alors, aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler de l'ascension. Donc, il y a 3 semaines, nous avons... C'est 3 semaines ou bien... Oui, 3 semaines, exactement. Oui, il y a trois... En fait, nous sommes le troisième dimanche après Pâques. Aujourd'hui, on est 3e dimanche après Pâques. Encore 2 dimanches, et puis quelques jours, donc ce sera l'ascension. Et je dois dire qu'en ce qui concerne l'ascension, c'est surtout Luc qui nous en parle. Et donc c'est pour cela, nous allons tourner vers Luc. Chapitre 24, on va lire à partir du verset 36 pour situer le contexte de l'ascension. Luc 24, à partir du verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. » Bien sûr, il est question de Jésus. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les yeux, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissons Dieu. Amen. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Pourquoi étaient-ils dans la joie? Alors que il s'agissait d'une séparation. En général, lorsqu'on se sépare, on est triste, n'est-ce pas? Mais ici, ils étaient dans la joie. C'était une ascension de la joie. Alors, pourquoi cette joie? Pourquoi est-ce que les disciples étaient joyeux? Lisons encore dans Actes des Apôtres. C'est toujours Luc qui écrit, hein. Actes des Apôtres. On va lire à partir du verset 1er. Jusqu'au verset 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Ah, donc c'est pour ça que l'ascension a eu lieu 40 jours après la résurrection, après Pâques. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. On a un peu une répétition de ce que Luc nous a dit déjà dans son évangile. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Des détails que seul Luc nous donne. Hein, les autres évangélistes, on induit qu'il y a l'enlèvement, mais ici, ça, on a tous les détails par Luc, le médecin, l'historien. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Dans Luc, il est dit que Jésus était à Béthanie, et ici, il est dit qu'il revenait du mont des Oliviers. Alors, Béthanie, je crois comme je l'ai déjà mentionné dans mon message dimanche passé, Béthanie est à environ 3 kilomètres de Jérusalem, et c'est sur le versant est du mont des Oliviers. Donc, qu'on dise que Jésus a été enlevé de Béthanie ou de mont des Oliviers, donc c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de contradiction. Et voilà, donc Jésus a été enlevé, donc à Béthanie, ou si vous voulez, sur le mont des Oliviers, à environ 3 kilomètres de Jérusalem. Et nous disons que c'est Luc qui nous donne le plus de détails. Alors, reposons la question que nous avons posée tout à l'heure. À l'ascension de Jésus, les disciples étaient heureux, louant et bénissant le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, nous pouvons avoir une réponse déjà dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 11. On peut lire plutôt à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés au ciel, vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, qu'est-ce qu'il va faire? » Amen! Donc, ils étaient contents parce qu'il allait revenir. Alléluia! Il reviendra de la même façon qu'il est monté. Gloire à Dieu! L'ascension nous dit qu'il va revenir. Et c'était déjà une promesse de Jésus lui-même. Nous pouvons lire ça dans Jean 14. Jean 14, qu'est-ce qui est écrit dans Jean 14? Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais, mais je reviens. Amen. Je m'en vais et je reviens. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Et donc, les disciples ont fait exactement cela. Ils ont compris. Et donc, ils se réjouissent de ce que Jésus aille au Père parce qu'il va revenir. Et autre chose aussi, toujours dans Jean 14, verset 3, il est dit aussi, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Je reviendrai. Donc, il y avait cette promesse-là. Jésus leur avait dit à maintes et maintes reprises, « Je dois partir. » Et il est vrai, avant la résurrection, ils n'étaient pas contents. Lorsque Jésus disait que j'allais partir, ils étaient tristes. Avant la résurrection, ils étaient tristes. Mais après la résurrection, ils ont compris. Ils ont dit, ah, si Jésus est capable de respecter sa promesse de ressusciter, de revenir à la vie, donc il respectera sa promesse aussi de revenir. Amen. Donc à l'ascension, ils étaient heureux parce que, eh bien, Christ allait revenir. Il allait revenir. Et en plus de cela, c'est qu'en attendant, Christ leur avait dit aussi qu'il n'allait pas les laisser seuls, qu'il n'allait pas laisser orphelin. Toujours dans Jean 14, lisons à partir du verset 16 à 20. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, ce qu'il faut savoir dans le grec, le mot « autre », il y a deux mots en grec pour dire « autre ». Il y a « autre » qui est vraiment différent, et puis il y a un autre qui est de la même nature. Et donc ici, l'autre, ici dont il est question, c'est un autre de la même nature. C'est-à-dire, c'est pareil au même. Donc, je vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, quand le Saint-Esprit vient, donc c'est Jésus qui vient à nous. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne le verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce moment-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et donc, les disciples n'ont rien perdu en échange. Christ est monté. Alléluia. Parce qu'il va revenir. Et de la même façon qu'on l'a vu, qu'il est monté, eh bien, il va revenir. Et en attendant, il ne nous laisse pas orphelins, il nous a donné un autre consolateur. De la même nature. Et donc, de sorte qu'on ne voit pas la différence. Et donc, les disciples étaient heureux et ils pouvaient louer et bénir le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pour ça c'était une ascension joyeuse, une ascension de la joie. Parce que celui qui est monté, eh bien, va revenir. Il va revenir et en attendant, il ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné son Esprit Saint. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils étaient heureux. La deuxième raison, parce que c'était la validation du sacrifice de Christ pour nos péchés. La mission a été accomplie. Alléluia, la mission a été accomplie. Il n'y a pas eu d'échec. Même lorsque ça semblait être un échec, la croix, mais il est ressuscité. Et alors il retourne vers le Père. Il y a la joie parce qu'il y aura des retrouvailles, le retrouvailles avec son Père. La mission a été achevée, la tâche accomplie. Eh bien, Christ retourne au Père. Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je vais au Père. Et là, quand il a dit ça, à l'époque, les disciples ne comprenaient pas tout à fait. Mais après la résurrection, c'était clair. Il retourne au Père. Formidable, il retourne au Père. Il retourne au Père, et quand il retourne au Père, qu'est-ce qui se passe aussi? Il est glorifié. Jean 17, verset 4 à 5. Ça, c'est la prière sacerdotale. Donc, peu avant sa mort, Jésus prie. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Qu'est-ce qu'il dit au Père? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Là, il parle prophétiquement, parce qu'il n'est pas encore mort et ressuscité. Mais il savait que cela allait se faire. Donc, il parle prophétiquement. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus retourne au Père et maintenant il est glorifié. C'est ce que nous pouvons lire aussi dans Actes 2, dans la première prédication qui a été prononcée après la Pentecôte. Actes 2, versets 32 à 36. Donc la prédication de Pierre. Alors, Pierre dit ceci, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Maintenant il est Seigneur et Christ. Il est à la droite de Dieu. Donc les disciples étaient dans la joie. Il a accompli sa mission. Son sacrifice a été accepté. Alléluia. Et il est à la droite du Père. La mission est accomplie. Il est glorifié. Et Hébreux 10, verset 10 à 14, dans le même sens. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il peut s'asseoir pour toujours parce que l'œuvre a été accomplie. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Donc les disciples se réjouissaient parce que Christ, il allait revenir et qu'en attendant, eh bien, il n'allait pas les laisser orphelins. Ils auraient le Saint-Esprit. Et ensuite, ils se réjouissaient parce que Dieu a validé le sacrifice de Christ à la croix. Il le reçoit auprès de lui et il est maintenant à la droite du Père. Dieu l'a glorifié. C'est la deuxième raison. La troisième raison, Christ est désormais, pour toujours, l'un des nôtres. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et depuis la résurrection, en fait, depuis l'incarnation et pas la résurrection et son ascension, c'est validé qu'il est parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme. Et homme, il le sera toujours. Et qu'est-ce que nous avons lu dans Luc, verset 39, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson aussi, un rayon de miel. Il en prit et l'en mangea devant eux. On va lire aussi Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois point incrédule. Avance ici ton doigt. Et parce qu'il est homme, parce qu'il est à la fois Dieu, parce qu'il est à la fois homme, alors il peut intercéder pour nous. Alléluia! Il peut intercéder pour nous. Il est notre intermédiaire, notre seul intermédiaire. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'il intercède pour nous. Aujourd'hui, c'est l'ascension, c'est l'inauguration de son œuvre d'intercession à notre faveur. Alléluia! Donc, à partir du moment de l'ascension, les disciples ont compris. Là, il va intercéder pour nous. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 7, versets 24 et 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Vous savez, parfois, quand vous essayez dans le monde d'entrer dans une société pour travailler, parfois, même si tu as les compétences, tu ne peux pas vraiment pénétrer certaines sociétés. Mais si tu as quelqu'un pour te servir d'intermédiaire, alors ça va. Donc, on ne va pas mettre beaucoup d'exigences. Hein? Parfois, on exagère même pour être sûr qu'on a la bonne personne, le bon candidat. Et on va ajouter des critères supplémentaires. Mais si tu as quelqu'un, je le connais, tu peux l'accepter. Et Jésus est notre intermédiaire. Il dit au Père, j'ai déjà payé pour lui. Il peut entrer. Il peut entrer, il peut entrer. Et non seulement cela, nous pouvons lire aussi dans Romains 8, Romains 8, verset 33 et 34, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est où? À la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! Donc, dans nos combats, dans nos luttes, eh bien, Christ est là, il intercède pour nous. Lorsque Satan vient nous accuser, nous avons Jésus qui est là, qui intercède pour nous. Alléluia. Il est monté et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il dit, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix pour lui. J'ai payé son ticket d'entrée. Alléluia. Je ne pouvais pas acheter le ticket d'entrée, mais lui, il l'a payé. Amen. Amen. Il est désormais, pour toujours, l'un des nôtres. Il est l'un des nôtres. Il est notre grand frère. Extraordinaire. Il est héritier et nous sommes co-héritiers. Et parce qu'il est un des nôtres, il peut intercéder pour nous. Et voilà encore quelque chose qu'il fait. Il est allé nous préparer une place. Alléluia! C'est ce que nous avons lu dans Jean 14. On va le relire. C'est Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il veut que nous soyons avec lui. C'est formidable, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il est allé préparer une place pour nous. Imaginez, bien-aimé, il est allé préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une place vraiment extraordinaire. Plus il y a de préparation, plus ça doit être extraordinaire. Si c'est un lieu banal, tu dis ok, bon, il peut venir, hein, il peut dormir là, en fait, n'importe comment. Écoute, on va manger ce qu'il y a. Mais non, il y a une préparation. Donc ça veut dire que la fête est belle. C'est une fête grandiose. C'est pas n'importe quelle fête. Hein? On prend son temps pour préparer, pour décorer les lieux, pour faire les provisions, etc., pour s'assurer que rien ne manque, pour s'assurer que le séjour se passe extraordinaire. Ce n'est pas un séjour de visite, ce sera un séjour permanent. Donc c'est extraordinaire. Et Jésus dit, donc, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, donc quand la place sera prête, à ce moment-là, eh bien, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Gloire à Dieu. Donc, les disciples se réjouissaient parce qu'il est allé leur préparer une place. Il nous précède. Il nous précède. Il nous précède. Bon, donc, voilà l'ascension. Ils étaient contents parce que Christ est désormais l'un de l'heure. Il est pour toujours homme, parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme. On pourra le reconnaître. Quand on ira au ciel, on va essayer de voir, on verra ces marques-là. Et ils sont contents parce qu'il est là, il intercède. Il est là, il nous prépare une place. Et enfin, quatrièmement, ils étaient heureux parce qu'il règne sur ses ennemis, sur nos ennemis. 1 Pierre 3, verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. L'ascension me dit que Christ règne sur toute domination, sur les anges. Ils sont devenus son marchepied. Éphésiens 1. À partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est monté et il règne. Alléluia, il règne. Et il est le chef des chefs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. S'il y a un petit seigneur ou un petit chef qui veut nous perturber, nous pouvons dire nous avons un plus grand chef. Alléluia, qui est au ciel, à la droite du Père. Il a déjà remporté pour nous la victoire. Nous n'avons qu'à réclamer cette victoire. Alléluia. Donc, voilà ce que signifie l'ascension. L'ascension, c'est que Christ, il est ressuscité, mais il est aussi monté au ciel. Il est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté au ciel, son intention, c'est pas seulement de nous laisser là. C'est pas seulement de nous laisser là. Mais il va revenir. Il va revenir nous prendre avec lui. Et en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prépare une place. Il nous prépare une place. Et pendant qu'il nous prépare une place, il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Il dit non coupable, non coupable, non coupable, non coupable contre toutes les accusations de l'adversaire. Il dit non coupable, non coupable. Non coupable. Et il dit j'ai payé. Et donc nous pouvons nous réjouir de l'ascension parce que Christ va revenir. Et en attendant, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné un autre consolateur de la même nature. le Saint-Esprit qui est là avec nous. Et par l'ascension, nous savons que Dieu a agréé le sacrifice que Christ a accompli pour nous à la croix. Et c'est pour cela qu'il l'a glorifié. Il l'a mis à sa droite. S'il avait échoué, il aurait dit non, ne reviens pas. Mais il a réussi. Et donc les disciples sont contents. Les disciples sont contents parce que Christ est l'un des leurs. C'est l'un des nôtres. C'est notre grand frère. Et quand on a vu son corps glorifié, et puisqu'il est les prémices de ceux qui sont ressuscités, nous savons que nous aussi, nous aurons ce corps glorieux où on peut entrer, hein, même si la pièce est fermée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est l'un des nôtres. C'est extraordinaire. Il est notre grand frère. Il est héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers avec lui. Il est là, il intercède pour nous, il nous prépare une place et il règne. Et nous allons régner avec lui. Alléluia. Nous allons régner avec lui. Et c'est extraordinaire. Donc nous nous réjouissons de ce que Christ, il est ressuscité et qu'il est monté au ciel et qu'il domine sur toute autorité. Car Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Hein? Mais gloire à Dieu, notre Seigneur, il est vivant et il est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus de tout. Donc nous remercions le Seigneur de ce que Christ, il est ressuscité et il est monté au ciel. Il est là, intercédant pour nous, en train de nous préparer une place, et lorsque cette place sera prête, cette place grandiose, cette place magnifique, il va venir nous prendre pour être toujours avec lui. N'est-ce pas merveilleux que le Seigneur veuille être avec nous? C'est extraordinaire. Et si je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Donc ça veut dire que vraiment nous avons dit du prix à ses yeux. Ça veut dire qu'il nous apprécie, qu'il nous aime. Lorsque tu n'apprécies pas quelqu'un, tu l'évites, tu dis non, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le sentir, je ne veux pas qu'il m'approche. Mais Jésus dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il est au ciel et c'est là aussi que nous serons. Amen. Il est monté, nous aussi nous allons monter. Amen. Il dit, il va revenir nous chercher et nous allons monter à sa rencontre. Il descend vers nous afin que nous puissions monter vers lui. Extraordinaire. Remercions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour extraordinaire, pour cet amour qui a été manifesté pour nous à la croix. Merci de ce que tu es mort, mais tu es ressuscité et ensuite tu es monté au ciel. Merci parce que tu vas revenir nous chercher. Merci de ce que tu nous as donné ton Esprit Saint en attendant. Merci Seigneur parce que tu es là, tu intercèdes pour nous, Seigneur Dieu. Et c'est toi qui nous donnes la victoire dans tous nos combats, dans toutes nos difficultés. Lorsque Satan vient nous accuser, vient nous troubler, et tu es celui qui est là pour dire, non, j'ai payé le prix pour lui. Oh Seigneur, merci de ce que tu es un Dieu vivant et tu règnes au-dessus de tout, Seigneur Dieu. Il n'y a aucune puissance, aucune autorité qui peut te résister, Seigneur Dieu, parce que tu as tout vaincu, Seigneur Dieu. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Chef des Chefs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui ne change pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le grand berger. Alléluia. Le grand consolateur. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois célébré, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Tu règnes. Règne dans nos cœurs, règne dans nos foyers, règne dans ton église. Merci Seigneur, gloire à ton nom Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.